Merci beaucoup Anne. Et on commence avec un point sur la formation, il est midi. Les titres avec vous Antoine Mercier, bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à tous. François Hollande devant la conférence des ambassadeurs ce matin, le chef de l'État a mis en garde contre les risques d'embrasement général en Syrie avec, dit-il, les interventions multiples et contradictoires de la Turquie et de la Russie. Il répète que l'urgence absolue c'est l'arrêt des combats, suivi de ses déclarations tout à l'heure avec Clara Mercier. François Hollande qui réaffirme par ailleurs que la France ne peut pas accepter en l'état le TIPP, c'est le traité international donc de libre-échange avec les États-Unis. Paris doit même annoncer officiellement sa demande à la Commission européenne d'arrêter ses négociations avec Washington, donc commentaire de Stéphane Robert. La Commission européenne qui riposte aussi ce matin aux avantages fiscaux qui ont été accordés par l'Irlande à Apple. Elle ordonne aux géants américains de rembourser à Dublin un montant record de près de 13 milliards d'euros. À propos des migrations, a signalé que les gardes-côtes italiens ont coordonné hier le secours d'environ 6500 migrants, c'est au large de la Libye, conditions météo qui sont réunies pour une nouvelle affluence aujourd'hui. Et puis le haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme salue la décision prise par la justice française de mettre un coup d'arrêt à l'interdiction du burkini. Elle estime en effet que ces arrêtés alimentaient, je cite, la stigmatisation des musulmans. L'invité du journal tout à l'heure, ce sera Véronique Champeil-Desplat, qui est professeure de droit public à l'université de Nanterre. Voilà pour les titres, c'est à vous. Donc Olivia Jasbert, la grande table.
C'est parti pour la grande table. Donc première partie jusqu'à midi et demi, là vous revenez, et ensuite on est ensemble jusqu'au bout, jusqu'à 13h30. Bonjour, l'an passé c'était ce soir, cet été ce matin, cette année promis j'apprends à dire ce midi. Deuxième grande table de cette rentrée et toujours aussi heureuse de vous retrouver. Un rendez-vous de la mi-journée ouvert à tous, vous allez voir, l'essayer c'est l'adopter. Ce mardi on va marcher sur les pas du père, tutoyer le réel, désacraliser le sacré, mais aussi repenser la laïcité comme un principe de liberté et non comme un principe d'exclusion, tout ça avec nos invités. Dans la deuxième partie de la grande table, nous recevons Philippe Portier pour son ouvrage « L'État et les religions en France, une sociologie historique de la laïcité régénérant ». Mais d'abord le dessinateur, scénariste, réalisateur Johann Sfar, qui du chat du rabbin à Gainsbourg, vie héroïque, a conquis le cœur du public et le nôtre bien sûr, et qui publie en cette rentrée un livre sans dessin, « Comment tu parles de ton père ?» émouvant.
La grande table. Olivia Jasbert.
Johann Sfar, bonjour.
Bonjour.
Vous signez donc en cette rentrée un livre intime, un livre consolation, un livre hommage à votre père, André Sfar, ce père juif séfarade d'Algérie, né l'année où tonton Adolphe est devenu chancelier en 33, comme vous l'écrivez, et qui n'était pas à une contradiction près, ce père. Un père qui vous lui en avez voulu, avant de vous en vouloir, de lui en avoir voulu, et à qui vous dites je t'aime à peu près 100 fois, hein, dans ce roman, dans ce livre, témoignage. Comment tu parles de ton père, un livre qui vient de paraître chez Albin Michel. Johann Sfar, est-ce qu'on peut partir de l'idée que les mots sont des crayons pour vous cette fois-ci ?
C'est surtout parce que j'arrivais pas à dessiner, j'avais mal aux yeux quand j'ai commencé à écrire ça et le seul truc que j'arrivais à faire c'est noter ça au feutre rouge sur un gros cahier. C'est bizarre parce que d'habitude je fais des livres très rapidement, celui-là il est très bref mais ça fait 2 ans que je le triture. Je sais pas à quoi ça sert, je suis ravi qu'il soit sorti d'une certaine façon, j'en suis un peu débarrassé.
Vous pouvez quand même nous faire un croquis de votre père, alors avec des mots, hein, puisqu'on n'a pas de crayon aujourd'hui, mais pour comprendre un peu qui était cet homme.
Quand j'ai vu le premier épisode de Mad Men et que j'ai vu Don Draper, je me suis dit, ça c'est mon père, sauf que mon père il est algérien. Mon père a perdu son père très petit, donc il s'est créé une image de bonhomme. Il fallait qu'il sache se bagarrer, il fallait qu'il soit meilleur à l'école, qu'il soit un bon avocat, qu'il soit musicien, qu'il ait une Alfa Romeo, qu'il ait un bateau et qu'il ait une nouvelle nana tous les 2 jours. Et moi j'ai grandi à l'ombre de ce mec-là, qui a perdu sa femme, donc ma mère, quand j'ai eu 3 ans, et qui au décès de ma mère a décidé de devenir religieux. C'est la pire chose qui me soit arrivée dans mon existence, parce que sinon il aurait fait de moi un pianiste comme lui, et au lieu de ça, il a fait de moi un névrosé comme moi. Voilà. Et partant de là, j'essaie de lui dire des mots d'amour, mais parfois ça se bouscule, et il se peut que je dise parfois aussi des vacheries malgré moi. Mais bon, c'est mon style.
Et puis il y a quelque chose que vous lui reprochez beaucoup, et qu'aujourd'hui vous semblez lui avoir pardonné, c'est que justement à la mort de votre mère, il ne vous le dit pas. Il vous dit qu'elle est partie en voyage, un long voyage. Hein.
Moi je reproche pas, je suis pas quelqu'un qui présente la note, je crois à l'irresponsabilité des êtres humains, ça me désole, je crois qu'on peut pas tenir sur un être humain. C'est un thème qui était beaucoup chez Pagnol aussi, le mensonge des adultes quand l'amoureux de la tante lui fait croire qu'il possède le parc Borély à Marseille. Moi, c'est la même chose quand ma maman est décédée. Non seulement mon père m'a dit qu'il était parti en voyage, mais il a ordonné que toute la famille disparaisse. Donc ça a été un drôle de trip pendant 2 ans, et le jour où vous découvrez que les adultes peuvent mentir, parce que c'est leur propre fragilité, on va pas leur en vouloir, mais là vous apprenez à mentir mieux qu'eux, alors peut-être c'est ça qui fabrique les auteurs, donc non, je me plains pas.
Pourquoi il l'a fait? Vous en avez parlé depuis, pour vous protéger?
Non.
Ce type un peu foutraque, exubérant, particulier, il avait quand même cette envie
pense que c'est sa fragilité à lui. Et ce qui est marrant, c'est que c'est même pas un truc de juif, parce que dans les familles juives religieuses, on a l'habitude d'être voisin avec la mort, on a l'habitude d'en parler. C'est un de mes cousins qui m'a dit non, c'est les Sfars en particulier qui ont une terreur de la mort. D'ailleurs, dans ma famille, on disait jamais il est mort, on disait oh le pauvre chéri, enfin il y avait toujours des paraphrases pour jamais dire que quelqu'un était mort. Il y avait ça et des souris. Ma grand-mère, elle avait peur des souris, donc il fallait toujours dire un autre mot que la souris pour dire qu'il y avait une souris quelque part.
C'est pour ça que vous avez 2 bagues tête de mort sur les doigts?
Je fais ma crise d'adolescence à 45 ans, et comme j'ai évité les tatouages, je tente les bagues.
J'allais vous poser la question. Bon,
non, j'ai évité les tatouages, parce que j'ai des enfants ados qui se foutent bien de ma gueule. Et déjà, quand je mets trop de bagues, ma fille me dit t'as l'air d'un émo. Et j'ai appris ce que c'était qu'un émo. C'est pas le capitaine, c'est un relou avec des qui pleurniche. Et voilà.
Et alors, avoir la mort sur les doigts, ça change le rapport qu'on peut avoir avec la fin, quelque chose que vous aimez pas trop?
Moi c'est pas la mort, c'est les morts vivants qui me plaisent. J'ai toujours écrit sur les vampires et tout ça, parce que le fait qu'un mort puisse parler, puisse revenir, c'est très rassurant pour moi. Là, sur ce petit livre, je quitte la fiction et je raconte la réalité, donc je raconte le monde où, quand les mamans partent en voyage, elles ne reviennent pas. Et je raconte 2 morts, je raconte cette mort dont j'ai été très fier, qui est la mort de ma mère. Je pense que j'ai passé toute mon enfance à m'en glorifier, à être assez heureux d'être orphelin. Ça me donnait un destin d'écrivain, ça me plaisait beaucoup, j'en étais très conscient. Et à l'inverse, perdre son père autour de 40 ans, il n'y a rien de plus banal. Personne ne va pleurer pour vous quand vous perdez votre papa passé la quarantaine. Et pourtant, on prend cher, parce que c'est comme si on rebootait l'ordinateur. Tout le monde, on se dit, mais j'ai passé ma vie à essayer ou de l'épater ou de me bagarrer contre lui. Du moment où il n'est plus là, je ne sais plus qui j'ai à épater, je ne sais plus à quoi je sers, je ne sais plus après quoi je cours, je ne sais même plus si je suis de droite ou si je suis de gauche. Déjà avant, je ne savais pas. Et on enlève un tuteur à tous les sens du terme.
Et alors, il y a un autre mort auquel vous rendez hommage ce mois-ci, c'est Salvador Dali. Et ça, ce sera à travers une exposition qui commencera la semaine prochaine, et à travers une bande dessinée qui s'appelle Fin de la parenthèse. On va reparler de cette autre surréaliste, irréaliste. Une succession de souvenirs dans cet ouvrage, comment tu parles de ton père, Johann Sfar. Une succession de souvenirs pour tirer un trait. A-t-on un peu le sentiment sur ce qui aurait pu devenir des regrets, pas des jugements, hein, comme vous le disiez, pas des reproches. Il faut mettre ces fantômes d'enfance un peu au placard quand même pour devenir adulte.
Alors je vais être un peu salaud, je suis vraiment écrivain avant tout, et pour moi ce sont des personnages. Et mon père et mon grand-père, quand on a la chance d'en avoir eu des comme ça, on veut que personne les oublie. J'ai grandi à l'ombre de 2 figures viriles, tutélaires, et qui se battaient l'une contre l'autre, parce que mon grand-père, il était pour la dépravation, pour la provo, c'était un type très provocant, très juif d'Europe de l'Est, ultra bizarre, et mon père, à l'inverse, c'était la tradition. Donc voir ces deux coqs se battre l'un contre l'autre pendant toute son enfance, c'est une chance, et si on n'en fait pas un livre, c'est une faute professionnelle, à mes yeux. Moi, c'est plutôt ça. Les histoires m'intéressent plus que le vrai monde, et je cherche à donner une forme, et quand j'ai la chance d'avoir un matériau comme ça dans ma famille, ce serait criminel de ne pas m'en servir.
Qu'est-ce que vous avez hérité d'eux? Vous faites cocorico aussi?
Non, tout le jeu sur la virilité, dont je suis absolument pas dupe. Il y a quelques heures par jour où on fait semblant ou d'être une femme ou d'être un homme.
Vous préférez quoi?
Je ne sais pas, mais pour un niçois, ce sont des heures précieuses. Pour un niçois, ce sont des heures précieuses. Je crois que je mesure à quel point on comprend peu Nice, on comprend peu les caractères qui s'y développent. Je sais qu'à Nice, il y a eu des bouffées de tendresse face à ce livre, parce qu'ils m'ont dit t'as réussi à capturer le papa niçois. Et à force de raconter qu'il est juif et qu'il est séfarade, je crois qu'on oublie de dire à quel point il était niçois, mon père.
Parce que vous êtes né là-bas et vous avez grandi à Nice.
J'y suis né, j'y ai vécu 22 ans, j'y retourne tout le temps. Et je ne sais pas ce que je suis dans la vie, mais niçois, c'est une certitude. Dans ce qui se passe dans cette ville, je trouve 1000 matières à des récits. Je crois qu'on a besoin d'un terroir. Je crois que j'en ai fait beaucoup, sans doute trop, sur ma culture juive, mon machin et tout ça. J'ai pas assez raconté les jardins, les paysages, l'eau, le fait que dès le mois de mars, on est à la plage avec les filles à partir de 15 ans. Donc on connaît l'anatomie de tout le monde. Il n'y a pas... C'est la sexualité des Niçois, elle est différente des autres villes. C'est pour ça qu'on a de moins bonnes notes au bac, on devrait nous rajouter des points, parce qu'on est distrait, si vous voulez. Les Parisiens, ils ne connaissent pas leur propre corps. Quand on dit « où est ton zizi ?», ils ne savent pas. À Nice, on sait où est le zizi des autres. Mes copains à Nice, même hétéros, se rasent le pubis, vous vous rendez compte? Oui, c'est les poils du zizi. On les.
Nice, c'est gentil de m'expliquer.
Mais c'est parce que c'est quand même extraordinaire. C'est une ville formidable.
Donc comme
ça.
Les cyclistes se rasent les volets avant d'aller faire leur petit tour de France,
c'est ça.
Johann Sfar, votre religion, c'est le dessin, malgré tout. Toi, tu crois et moi, je dessine. Dites-vous à votre cousin dans ce livre, ni croyant ni pratiquant, dans une famille quand même très marquée et attachée à la culture juive. Hein, vous le racontez. Comment vous expliquez ça, cette mise à distance pour vous?
Parce que les morts ne sont pas arrivés au même moment. J'ai des cousins qui sont très religieux et à qui je m'entends très bien. Ils sont devenus religieux parce que leur mère est morte quand ils étaient adultes. Moi, je suis devenu athée, provocant et dessinateur parce que ma mère est morte au moment où mon salut venait par le dessin. Donc je crois qu'on peut se raconter toutes les théories qu'on veut. Il y a un moment, on va vers une discipline parce qu'elle nous fait du bien. Moi, le dessin me sauve de tout. Je pense que le dessin peut
laver. Mais le dessin, c'est une croyance ou c'est une forme d'athéisme, justement?
C'est comme Lévinas, mais avec des images. C'est voir réellement qui on a en face, éviter d'employer des mots creux comme l'altérité et voir qu'un visage, c'est du semblable et c'est du différent. On peut plus jouer à se séparer en religion et en pays dès qu'on s'est dessiné. On voit des êtres humains qui ont tous l'air de petits singes mais qui méritent quand même qu'on s'intéresse à eux. On sait qu'ils pensent rien. Ça c'est vraiment intéressant. On essaie de nous vendre en ce moment les musulmans, les athées, les machins. Nos concitoyens, moi y compris, on ne pense rien. On vous annonce une couille comme le burkini. Tout d'un coup, il va falloir se déterminer sur... La réalité, c'est qu'on pense rien sur le burkini. Et on va fondre une pensée, on va réfléchir. Comme quand on donne une banane à un singe et il se demande s'il va l'ouvrir, s'il va la manger, s'il va se la mettre dans le cul, s'il va la jeter à la poubelle. Donc, moi, ce qui m'intéresse par le dessin, c'est la matérialité presque marxiste de l'être humain. De dire, voilà, j'ai des petits singes assez doués face à moi, j'en suis un aussi. Par le dessin, on va se remettre à niveau et on va faire un travail ensemble.
Vous l'avez dessiné, vous, ce burkini?
Non, j'ai eu la chance de ne pas en débattre et j'aimerais bien que ça continue parce que, alors, profondément, j'ai beau essayer de m'intéresser à tout.
Vous ne pensez toujours rien.
Mais quand il y a un débat où vous détestez tout le monde, qu'est-ce que vous faites? Moi, je déteste et les gens qui portent le burkini et les gens qui le combattent. Je voudrais juste être ailleurs que dans l'époque du burkini.
Même s'il y en a un sur la plage de Nice.
Je sais pas. Non, pour le dire autrement, moi j'aimerais mieux qu'on mette en avant des choses qui nous relient, qui nous amènent à passer du temps ensemble. Chercher le conflit à tout prix, ça dit que le pays a envie de sang et ça me fait pas très plaisir.
Bon alors paf paf, je reviens au dessin parce qu'on était quand même en train de parler de ça. Pourquoi écrire quand il y a le dessin? La colère, c'est une émotion qui est trop dure pour vous à formaliser, à dessiner?
Mais alors je vais faire mon petit enfant synesthésique, mais je ne sais pas la différence entre les mots et les dessins. Quand je me mets derrière une feuille pour faire une histoire, parfois viennent des dessins parce que j'ai besoin de voir les visages. Et parfois ce sont des mots, mais je n'ai pas conscience que c'est une activité différente.
Vous dites que le dessin, c'est rien d'autre finalement que la matérialisation d'une idée du monde, donc l'écriture aussi. Hein.
Ah oui. Ah oui, ça c'est marrant parce que j'étais sur le dessin animé de Petit Vampire là et on parlait avec mes animateurs et on regardait les plans d'un film et je leur disais mais un plan c'est une phrase. On doit être capable de résumer un plan en une phrase. Donc quand je dis que j'ai pas conscience de la différence entre les images et les mots, ça apparaît comme un révélateur photo. C'est un camarade qui me disait c'est l'écriture est difficile parce que tout le monde y arrive. Donc il faut trouver l'endroit où on n'y arrive pas, il faut trouver l'endroit où on ne sait pas bien comment les mots sont arrivés. La question c'est plutôt dans quel état tu te mets pour que ça vienne. Je pratique beaucoup de macumba, je cherche des trans, je me tire les tarots, je fume un cigare, je m'amuse à me brûler les pouces avec un briquet parfois, je fais des choses un peu bizarres.
Il y a de la colère quand même dans ce livre, hein. On a l'impression, alors je sais pas, vous l'écrivez pour, oui. Pour la chasser cette colère
ou,
et alors elle est tournée contre qui cette colère ou contre quoi? Vous êtes en colère.
Contre rien, c'est assez hyperbolique. Si j'étais croyant, je pourrais être en colère contre Dieu, mais c'est pas ça. Je pense que la colère, c'est de l'énergie. C'est bien de se lever avec de la colère. Il faut en faire quelque chose, il faut en faire des histoires. Ce qui me fait peur, c'est le littéralisme. Ce qui me fait peur, c'est quand on a une colère, que cette colère se transforme en point qui arrive dans le visage de quelqu'un. J'essaye d'éviter ça, et j'essaye que ça devienne des mots, mais on a droit d'écrire pour le combat, bien sûr.
Vous m'évitez ça ce midi, en tout cas, ce serait gentil, je n'espère.
Non, mais on a le droit... On a le droit d'écrire pour les enfants. On a le droit de se dire que...
Mais là, l'enfant, c'est vous dans ce livre, non?
Non. Si je prends la peine de l'écrire, c'est parce que j'ai le sentiment que ça concerne tout le monde. J'ai le sentiment que la pudibonderie des adultes face à la mort, la manière de mentir aux enfants, la manière d'imposer une réalité religieuse avec les meilleures intentions du monde, ça peut fermer des fenêtres. Et moi, si j'écris, c'est pour les enfants d'aujourd'hui. C'est pas pour l'enfant que j'ai été. Le fait que quand un gamin a perdu ses parents à l'école, on lui dise quand même, tiens, il va y avoir l'heure des mamans. Moi, j'ai trouvé ça relou pendant toute mon enfance. Je sais pas comment on gère aujourd'hui dans les écoles les gamins qui ont perdu des enfants, les gamins qui ont perdu des parents. Je crois que c'est un sujet. Il y a un truc qui crève les yeux. Achetez tous les livres de psychanalyse que vous voulez. Il n'y en a pas sur les enfants orphelins, ou il n'y en a pratiquement pas, ou ceux qui existent traitent les enfants orphelins et les enfants de divorcés dans les mêmes chapitres. C'est, si on voulait invalider la psychanalyse, le sujet il est là. Il y a probablement un sujet tellement dur là-dedans que les psychanalystes ne veulent pas y aller parce qu'ils savent bien qu'ils ne serviront à rien là-dessus.
Donc ça, c'est un livre d'orphelins ? C'est un livre de psychanalyse ?
Moi, ce que j'essaye d'expliquer aux orphelins, c'est non, tu ne vas pas te soigner, la résilience, c'est des conneries, il faut que tu apprennes à planquer. Parce que le jour où les gens verront à quel point tu es dingue, toutes les nanas vont se tirer, toutes tes amis vont s'en aller et les gens ne voudront pas te voir. Donc tu vas apprendre à mentir pour qu'on te supporte.
On les aime bien les dingues, non ?
Mais je crois que ça, c'est vraiment important. Ça, c'est vraiment important. De dire que les problèmes ne se règlent pas, que c'est très important de mentir, et c'est très important de présenter un grand sourire pour que les gens vous adorent. Et le moment où vous vous dites, eh tiens, là, je vais t'ouvrir mon cœur, je vais tout te dire, ça marche avec le lecteur, ça ne marche pas avec les gens du vrai monde.
Bon, alors donc vous écrivez votre colère pour la chasser, en même temps vous nous dites que cette colère, elle est quand même productive, et vous cherchez à l'éradiquer, alors pourquoi ?
C'est de l'énergie, c'est du jeu, c'est du matériau. Je répète que je considère...
Donc, il en reste un petit peu, hein, parce que là, vous avez quand même écrit « Je fais ce livre pour ne plus avoir de colère contre rien ». Il en faut,
ouais, non, mais ça,
sinon
c'est
terminé.
Ça recommence tous les matins.
D'accord.
Mais c'est comme Harry Potter, la pancine, il faut s'en débarrasser tous les matins. Il faut mettre sa colère quelque part, il y en a qui font je ne sais pas quoi. Et moi, je fais ça.
Bon, on va quand même pas laisser croire à ceux qui nous écoutent que comment tu parles de ton père, c'est un livre assez ronflant et imbu d'introspection, Johannes Farr, parce que vous n'êtes pas le genre de gars à vous prendre au sérieux sans un peu, beaucoup, voire énormément d'autodérision. L'humour, je cite une phrase, je savais que si je déconnais, je risquais de me retrouver en Israël, ce pays sans librairie de bande dessinée. Ça y est, on peut recommencer à nouveau à rire de tout.
Moi, ça me terrorisait, ça, parce que mon père me menaçait qu'on allait vivre en Israël, et on m'avait dit que c'était un pays où il n'y avait pas de librairie de bande dessinée, donc ma vision géopolitique était très limitée, mais je savais que je ne voulais pas y aller à cause de ça.
Je vous lis un passage, et puis après le prochain, ce sera vous. Un jour, j'ai écrit à mon papa, « Papa, je t'aime, mais tu m'emmerdes. Sandrina et moi, on va avoir des enfants. Alors si tu veux continuer d'avoir un fils, fais quelque chose. » Et en un instant, mon papa l'a considéré comme sa fille. Et je m'en suis voulu. Je me suis dit que tout ça, c'était de ma faute. Si j'avais osé dire, « Papa, tu déconnes. Maman n'est pas en voyage, elle est morte. Papa, lâche-moi. C'est moi le coupable. J'ai eu peur de toi. » Et c'est tout. Il y a 3 semaines, je t'ai tenu la main. Je t'ai dit que j'avais une fiancée. Tu sais, tu n'étais plus le même, papa, que pendant mon enfance. Quand j'étais petit, tu te mettais tellement de missions sur les épaules. Quand tu as été malade, tu t'es mise à rigoler de plein de choses. Je n'ose pas dire relativiser, mais tout de même, la veille de ta mort, je n'ai pas eu peur de t'avouer que ma fiancée non plus, elle n'est pas juive. Tu m'en veux pas ? Tu m'aimes, papa ? Moi, je t'aime. Tu ne mérites pas qu'aujourd'hui encore, j'ai tant peur de toi.
Ça, c'est pas le passage le plus drôle, hein ?
Non.
Non, il y a des vannes quand même dans le livre.
On va y revenir. Vous étiez l'enfant prodige ou pas, Johannes Farr ?
Non, je crois qu'on me l'a fait croire. C'est ça le truc, c'est qu'on fait croire aux enfants qu'ils sont géniaux, comme la mère de Romain Gary. Donc après, ils passent toute leur vie à pédaler tout vite sur leur petit vélo pour essayer d'arriver au niveau de ce qu'on leur a dit de faire. C'est ça le secret des mères juives, c'est qu'elles vous font croire que vous avez du talent.
On ouvre ensemble la porte du paradis et on se retrouve dans quelques minutes.
Thank you.
France Culture, midi 20, extrait de la musique de La Porte du Paradis du cinéaste Michael Cimino, décédé en juillet dernier. Il faut savoir qu'une rétrospective lui est consacrée à la Cinémathèque française à partir de demain et jusqu'au 5 septembre. Cimino, enfant prodige, lui aussi, ou d'Hollywood, qui était devenu un cinéaste maudit avec ce western La Porte du Paradis à l'ambition de fresque historique.
France Culture, La Grande Table, Olivia Jesbert.
Et le grand Johann Sfar avec ses bagues tête de mort et notre invité ce midi dans La Grande Table. Johann Sfar, votre écriture, parce qu'écrire un livre, c'est aussi se chercher un style, un trait de plume, comme avec un crayon quand on dessine. Vous dites avec ce livre avoir voulu aller vers un réalisme enfantin, ça veut dire quoi? Quelque chose de pas trop acéré, une plume qui n'est pas trop méchante, hein, mais qui a une sorte de candeur un peu narquoise. Ça, c'est un style qui vous convient bien?
C'est observer, c'est regarder avec le sérieux d'un enfant les choses absurdes qu'on voit et arrêter d'essayer de faire des belles phrases. Les premiers romans que j'ai publiés, j'essayais de montrer que je savais faire des phrases, j'avais envie de faire le bon élève. Et en fait, j'ai besoin de recevoir ce que j'écris de manière très simple. Donc je m'amuse à le dire à haute voix. Je me rappelle que, je vais pas mentir, mes écrivains préférés, c'est Frédéric Dard, c'est Albert Cohen, c'est Romain Gary. Ce sont des gens qui à la fois ont de la culture, mais en même temps savent écrire avec du coup de poing, avec de l'expression, avec de l'intérêt. J'ai une passion débordante pour Louis-Ferdinand Céline, donc j'ai besoin de bruit quand j'écris, je ne peux pas écrire au calme.
Ah, vous écrivez au café, par exemple ?
Oui, je ne sais pas la différence entre écrire et raconter, donc je raconte comme ça me vient, et après on retravaille énormément, après on découpe. J'aime beaucoup l'idée de Céline qui mettait ses chapitres accrochés par des pinces à linge dans plusieurs petits paquets et qui ensuite les rangeait. Je précise au sujet de ma passion pour Céline qu'à mes yeux, un écrivain n'a pas besoin d'avoir raison. Il peut avoir tort sur tout et je vais l'adorer quand même.
Vous êtes un staccano d'écriture ? C'est-à-dire que vous relisez, vous réécrivez ?
Oui, mais longtemps après, de manière... Ça, ce texte a été écrit il y a 2 ans, puis mon éditrice m'a amené à le reprendre il y a 1 an. Elle m'a expliqué que je pouvais garder les passages tristes. Moi, j'étais très mal à l'aise que vous ayez lu un truc triste là tout à l'heure. Je me sentais à poil, je sais pas faire ça. Et c'est grâce à mon éditrice que j'ai appris qu'il y a des lecteurs que ça ne dérangeait pas, que je les fasse chialer. Bon, en même temps, après, je suis mal à l'aise. Après, j'ai besoin de dire des conneries, sinon je suis pas bien.
Du coup, il y a du rire, mais il y a des larmes aussi. Et moi, j'ai lu le passage sur les larmes.
C'est particulièrement drôle, mais c'est de l'hyperréalisme niçois. Mm-hmm. Donc mon père est en train de mourir. Hier, je me suis autorisé 1 heure loin de papa. J'ai filé dans la rue piétonne et j'ai commandé une pizza des frères Crécy. Ils n'en servent qu'une moitié, mais c'est déjà grand comme la table et ça baigne dans le piment. Et à côté de moi, un vendeur et une vendeuse, baskets sans chaussettes, des boutons et plein de nichons, se faisaient une dispute de couple au sujet du prénom d'un petit chat. Ils n'écoutaient pas. Elle demandait qu'ils prennent ça un peu au sérieux. Il y avait des prénoms bien et des prénoms pas bien. Gypsy ? Non, gypsy, ça fait gitan. Ça n'a rien à voir. Gypsy, ça veut juste dire gypsy. Bah, Sylvie, alors. Sylvie, pour une chatte, ça va pas, tu t'intéresses à rien. J'ai eu une copine qui s'appelait Sylvie. Je donne pas à ma chatte le nom de tes ex. Pardon, ce génie littéraire-là, il bat en brèche la tristesse du deuil. Je suis sûr que malgré tous les tubes et même s'il manque d'oxygène dans le cerveau, papa aurait bien rigolé s'il avait été là. On ne s'est pas connu au bon moment.
Il y a ce style très direct qu'on vient de vous entendre citer, lire à l'instant. Vous vous adressez toujours à quelqu'un dans cet ouvrage, comme à votre cousin par exemple, quand vous lui dites « j'ai pas été croyant, Paul, parce que j'ai eu le sentiment que le langage servait à mentir ». Tout est écrit aussi sur le ton du jeu et vous mâchez pas votre jeu, hein, vous avez votre franc-parler et on entend bien que votre petite voix intérieure aussi.
Il y a une construction qui est très consciente, c'est qu'il y a un jeu enfantin. Il y a un jeu d'il y a 4 ans et il y a un jeu d'il y a 2 ans. Et il y a plusieurs premières personnes dans ce livre et ça c'est presque du montage de cinéma, je joue avec. Et en plus en le lisant, on pourrait se dire, merde mais Johann Sfar dans sa famille, il se parle jamais, il est obligé de faire un roman. Mais c'est pas vrai, on s'est toujours parlé tout le temps. Mes cousins là à qui je m'adresse, on s'est parlé pendant des années avant, pendant des années pendant. Maintenant il y en a qui sont ravis, ils ont lu le livre. Donc en fait on peut pas dire que je suis un enfant muselé, on m'a tout le temps laissé parler mais on dirait que ça suffit jamais. Je suis maladie.
Il va commencer à pleurer. Ce livre, vous allez en faire un film ?
Ah non, mais il y a des limites.
Pourquoi pas ?
Je sais pas, il y a des limites. Je peux pas vous dire, c'est un truc esthétique. Il y a des limites. Non, j'aime. Non, je saurais pas faire ça.
Ah ça, j'arrive pas à comprendre. Parce que vous aimeriez pas voir votre père, votre grand-père, vos cousins et peut-être vous-même incarné par d'autres.
Ça, je le fais.
Vous pouvez incarner les autres, mais pas eux. Pas des gens.
Quand je fais le dessin animé de Petit Vampire, je représente mes grands-parents, mais ils sont dessinés, c'est interprété. Prendre des acteurs pour jouer mes parents, ça serait compliqué. Déjà, Serge Gainsbourg, c'était le maximum d'intimité où je pouvais aller. Déjà, je pleurais tous les jours. Alors, les gens, ils ont pas besoin d'une éponge sur le tournage.
faut voir la tête que vous faites. En cette rentrée, Joanne Soir, vous publiez également une bande dessinée, fin de la parenthèse, chez Rue de Sèvres, aux éditions Rue de Sèvres, hommage à Dali et à l'art comme rempart à l'obscurantisme. Et vous exposez aussi à l'espace Dali des dessins issus de cette bande dessinée. C'est des dessins originaux que vous exposerez dans cette exposition à partir du 9 septembre. Votre imaginaire dalien, on va le retrouver là, je ne sais pas si on peut dire ça, une carte blanche pour imaginer le scénario d'une rencontre artistique entre vous et le père du surréalisme. Vous avez réussi à vous balader dans le cerveau de Dali sans trop vous perdre.
Ouais, ça raconte pas ça. Ça s'appelle fin de la parenthèse parce que c'est la fin
de l'exposition.
C'est la fin de ces 15 ans ou 20 ans pendant lesquels je me suis trouvé plein de figures tutélaires. Il y a eu Gainsbourg, il y a eu Saint-Exupéry, là il y a Dali, et ça raconte un mec qui va arrêter ça. Ça raconte un mec qui va arrêter. Donc en fait, il y est pas Dali dans cette histoire. Le mec s'enferme avec 4 nanas nues pendant 3 jours dans un hôtel particulier. Il les dessine, il les peint, ils prennent de la drogue et ils essaient de réveiller Dali parce qu'ils trouvent que la religion ça suffit, les barbes ça suffit. Maintenant, faut des moustaches. Je résume abruptement. Et donc pendant ce happening artistique, mon héros se met à exister d'une certaine façon. Je crois que le fait de perdre mon père, ça m'a donné envie aussi d'arrêter de me trouver des tas de masques de mecs connus de Gainsbourg à d'autres et de réinventer mes propres personnages à moi. C'est pas du tout un hasard si, après cette fin de la parenthèse, je reviens à des personnages comme Petit Vampire ou à des personnages de bande dessinée que j'ai pu abandonner pendant un moment. Je crois qu'il a fallu que je perde mon père pour que je m'aperçoive que des papas, il fallait arrêter d'en chercher.
Qu'il était la seule grande figure.
Bah, en tout cas, on cherche ça, ou en tout cas, parfois, on en veut d'autres, parfois. Vous savez, les enfants sont toujours ravis quand on leur raconte qu'ils ne sont pas les enfants de leurs parents, qu'ils sont en fait les enfants secrets de Salvador Dali et Serge Gainsbourg, ou on aimerait bien ça.
Et qu'est-ce qu'il y avait de commun, justement, entre Gainsbourg, Dali, votre père, peut-être
rien
aussi.
Du tout.
Rien.
Mais alors absolument rien du
c'est
tout.
C'est des figures qui vous ont plu pour c'est... des raisons
non, parfois,
différentes.
Mais mon père, des fois, il était vraiment pas drôle, et j'aurais bien aimé avoir des papas un peu plus rigolos par moment, il faut dire les choses. Pourquoi, malgré toutes ses qualités.
Pourquoi vous avez convoqué Dali, du coup, dans cette exposition et cette bande dessinée? Parce que c'est aussi celui qui a su, à un moment, se dresser avec l'art, par la liberté d'expression contre la censure.
Je crois, et je pèse mes mots, qu'on est vraiment dans la merde avec la religion, au sens large. Et il me semble qu'il faut confisquer la religion. Et Salvador Dali, c'est quelqu'un qui a su avoir une attitude confiscatoire vis-à-vis du Christ, mais vis-à-vis du monothéisme en général. Et c'est de ça que parle ce livre. C'est la réappropriation du sacré par des artistes qui ont le courage de dire « je sais largement autant que les prêtres ». Et je crois que c'est une attitude courageuse.
On va confisquer la religion encore un tout petit peu ensemble jusqu'à 13h30 dans la grande table. Tout a une fin, Joanne Soir, vous le savez, hein. Désolée de vous imposer cette réalité que vous qualifiez, vous, de frustrante. Vous n'aimez pas qu'on vous coupe, mais là, vous vous êtes arrêté de vous-même. Donc, tout va bien. Vous pouvez rester avec nous si vous le souhaitez à suivre dans la deuxième partie de la Grande Table. On va parler ensemble autour du joli mot de laïcité. Peut-être qu'il y aura un tout petit peu de burkini, ça va pas vous plaire. Avec le politiste et sociologue des religions, Philippe Portier, après le journal de la rédaction.
Moon, her magic bee, big sad face. Of infinity.
Les Inrecuptibles présentent leur série Beat Generation. À l'occasion de la rétrospective au Centre Pompidou, les Inrecuptibles mettent à l'honneur ce mouvement influent et anticonformiste qui a révolutionné autant la littérature que le rock, de New York à Paris, à travers des figures telles que Jack Kerouac ou Allen Ginsberg. Les Inrocs hors série Beat Generation à retrouver demain en kiosque et sur lesinrocs.com. Un partenariat France Culture. Septembre 2008, la banque d'investissement Lehman Brothers fait faillite, entraînant la chute des bourses mondiales. Une véritable saga dans le feuilleton. Saga familiale commencée un siècle et demi plus tôt, une success story jusqu'à la chute. La crise d'un système entier qui a fini par échapper à ceux qui l'avaient créé.
Chapitre de la chute, saga des Lehman Brothers, de Stefano Massini.
Cette semaine sur France Culture à 20h30. À écouter aussi sur franceculture.fr.
Voilà, on va se retrouver dans une vingtaine de minutes pour la deuxième partie de La Grande Table avec le politiste, historien, sociologue des religions Philippe Portier qui signe cet été un livre autour de la laïcité, un ouvrage de réflexion autour de ce beau concept.